Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous vous proposons des secrets de chefs-d'œuvre cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, Franck Ferrand revient sur le vol de la Joconde.
Bonjour à tous. En ce mercredi 22 août 1911, le portrait le plus célèbre de l'histoire de la peinture, l'icône de la civilisation occidentale, Mona Lisa en personne, si j'ose dire, a disparu de sa cimaise au Louvre. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci vient d'être dérobé à la barbe de ses gardiens. Imaginez le choc pour l'opinion, autant annoncer qu'on a subtilisé l'obélisque de la Concorde ou volé les vitraux de la Sainte-Chapelle. À partir de ce 22 août 1911, c'est une enquête frénétique qui est lancée, un véritable feuilleton qui va durer plus de 2 ans et captiver le monde entier.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a un siècle, en cette année 1911, Louis Béroux est un peintre assez apprécié dans le domaine un petit peu secondaire des scènes de genre. Il a 59 ans, Louis Béroux, c'est un ancien élève de Bonnat. Il s'est fait la réputation d'un bon observateur et depuis quelques années, il a une spécialité. Il peint des scènes assez quotidiennes qui ont pour cadre précisément les galeries du Louvre. C'est pourquoi, en ce matin du mardi 22 août 1911, le peintre Louis Béroux fait partie des quelques privilégiés autorisés à se promener dans le Louvre avant l'ouverture au public. L'ouverture au public, c'est à 9h30 à l'époque. Il faut imaginer là 5 ou 6 messieurs respectables qui déambulent en guêtres, faux cols et chapeaux melons, des habitués du musée en somme. Béroux se frotte les mains, il est tout content de s'attaquer à sa nouvelle toile dont le sujet l'excite assez puisque, depuis quelque temps, la Joconde a été installée dans une petite vitrine. Alors Béroux a imaginé de peindre une Parisienne, une élégante, qui se recoiffe et qui cherche son reflet dans la vitre du chef-d'œuvre de Léonard. L'idée est amusante, Monsieur Béroux est assez content de lui. Il se dirige donc d'un bon pas, accompagné de son assistant, vers le salon carré. Le salon carré, vous savez, c'est au bout de la Grande Galerie, c'est la pièce la plus connue du Louvre, c'est celle où s'est tenu pendant plus d'un siècle le fameux salon où exposaient les artistes vivants. À l'époque, c'est au milieu de ce fameux salon carré qu'est exposée la Joconde. Sauf que ce matin-là, à la place de la Joconde, entre une toile du Corrège et une autre du Titien, il y a un grand vide. Louis Béroux s'enquiert auprès du brigadier, qui s'appelle Monsieur Poupardin, c'est un brave homme un petit peu rigide dans sa belle redingote noire à boutons dorés. « Ah tiens, oui, » dit Poupardin, « bon, elle doit être chez le photographe. » Il faut savoir en effet que le fameux éditeur Braun vient d'installer un atelier de photographie dans les annexes du musée. Louis Béroux et son assistant prennent donc leur mal en patience, ils installent le chevalet, ils commencent à placer l'esquisse à grands traits. Seulement, Madame Lisa, comme disait Bonaparte, se fait attendre. Alors le peintre revient à la charge, il va revoir Poupardin qui accepte d'envoyer un de ses gardiens voir ce qu'il en est à l'atelier de photographie. Le garçon revient très vite, la mine déconfite, les photographes n'ont pas touché à la Joconde. Tiens, tiens, Monsieur Poupardin est soudain parcouru de sueur froide. « Je vais me renseigner du côté de l'administration quand même, » dit-il. Et on peut dire qu'à ce moment-là, son pas est déjà un petit peu chancelant, vous voyez. Un quart d'heure plus tard, il faut se rendre à l'évidence, la Joconde en personne a disparu du Louvre, victime de ce qui pourrait bien se révéler le plus scandaleux cambriolage de l'histoire. Le directeur du Louvre, Monsieur Homol, est à l'époque en vacances. On est au mois d'août, hein, il est encore dans les Vosges. Et c'est son remplaçant, Monsieur Bénédite, du département d'Égypte, qui en est allé chercher chez lui, en catastrophe. Il arrive à 10h, tout le personnel est déjà sur les dents. Sur les conseils de Monsieur Dujardin-Baumès, qui est le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, on essaie de régler le problème, comme on dit, en interne. Seulement, on a beau fouiller le Louvre de fond en comble, on n'y trouve pas l'ombre de Mona Lisa. Et à midi, la mort dans l'âme, Monsieur Bénédite se voit contraint de décrocher son bel appareil de téléphonie et d'appeler le préfet de police, le bon monsieur Lépine, celui du concours Lépine, vous savez. Moins d'une heure plus tard, ce sont 60 inspecteurs, 100 gendarmes, qui, sous le prétexte oiseux d'une rupture de canalisation, envahissent donc le musée. Le ministre de l'Instruction publique, monsieur Steg, va devoir rentrer précipitamment de vacances, lui aussi. Il est déjà attendu chez le président du conseil, monsieur Caillot. Il faut moins de 2 heures pour que ce scandale soit rendu public. Même si, en vérité, la presse croit d'abord à un canular, la nouvelle se répand. Il est vrai qu'on est à l'époque d'Arsène Lupin. Vous savez que l'affaire paraît signée par le héros de Maurice Leblanc. Quelque temps plus tôt, M. Homol, directeur du Louvre, avait déclaré « Voler Mona Lisa, mais ça équivaudrait à voler une tour de Notre-Dame de Paris. » Oui. Je voudrais garder pour la seconde partie de l'émission les plus grands rebondissements de l'enquête qui va s'ouvrir. Mais déjà, laissez-moi vous livrer quand même les principales découvertes du magistrat instructeur, le juge Drioux, un petit homme à moustache lustrée et monocle que ses collègues appellent la grenouille et que la presse ne va pas tarder à appeler le Marie de la Joconde, Marie avec 2 R naturellement. D'abord, 2 maçons. Qui travaille aux travaux d'été sur la bâtisse, l'architecture même du musée sont formels. Ils ont vu la Joconde en place la veille à 21h. Ils l'ont revu le lundi 21, ils l'ont revu à 7h du matin. Et quand ils sont repassés à 9h du matin, alors là, la Joconde n'était plus à sa place. Et ils ne se sont pas inquiétés parce qu'ils ont pensé que le tableau avait été déplacé par les conservateurs pour une raison quelconque. Le vol, c'est donc assez facile à déduire, a eu lieu lundi matin, entre 7 et 9 heures. Deuxième gros indice, le cadre du tableau et la vitrine de protection sont retrouvés abandonnés dans un petit escalier qui permet de descendre vers la cour du Sphinx. Ainsi, les voleurs seraient passés par là. Or, lundi matin vers 8 heures, un employé des ateliers a vu à travers la porte vitrée de cet escalier un homme en blouse blanche qui était assis tout en bas sur les dernières marches. Il lui a même ouvert la porte sans se méfier, croyant avoir affaire à un collègue stagiaire. Simplement, il a remarqué que le bouton intérieur de la poignée avait disparu. On le retrouvera dehors, dans le grand fossé, où un jardinier confirmera avoir vu un homme l'y jeter. Un homme jeune, dira-t-il, habillé comme un petit bourgeois et marchant d'un pas pressé sur le quai en direction du carrousel. Ainsi, le voleur serait sorti par la porte Visconti, profitant du fait que le gardien, comme tous les lundis matins, était occupé à laver sa cour à grande eau. Il fallait donc que l'homme en question soit un habitué des lieux. Justement, et c'est le dernier indice, Monsieur Bertillon, vous savez l'inventeur de l'anthropométrie scientifique, Bertillon a relevé sur la vitrine abandonnée une empreinte très nette de pouce. Le crime, paraissant lié à un habitué du musée, on décide de prendre les empreintes des 257 personnes travaillant au Louvre, Monsieur Homol lui-même donnant joyeusement l'exemple. Il devrait être moins joyeux, Monsieur Homol, parce qu'en vérité, il va être limogé, là, dans la foulée. Il faut toujours, vous savez, dans ce genre de circonstances, 1 ou 2 victimes expiatoires. L'analyse des empreintes se révèle malheureusement stérile. Impossible d'identifier le coupable parmi les 257 suspects. Et l'enquête piétine, la presse fait des gorges chaudes sur l'incurie des musées, le laxisme du Louvre, l'inefficacité de la police, la décadence du régime. Certains organes plus politiques n'hésitent pas à voir sous ce mauvais coup la main des Allemands. On va voir tout à l'heure ce qu'il faut en penser. L'opinion s'impatiente, elle se scinde en 2 groupes. D'un côté, il y a ceux qui s'amusent de la situation, qui rient avec les chansonniers de l'embarras des autorités. Puis de l'autre, il y a tous ceux que la disparition de la Joconde scandalise et qui s'insurgent. Or, l'enquête tourne en rond. Les semaines passent sans que l'on recueille aucun élément efficace. Le directeur des peintures, Monsieur Le Prieur, a pris sur lui d'organiser sa propre enquête auprès de tous les artisans qui, dans l'année passée, ont été inscrits sur les registres d'entrée au Louvre. Et c'est ainsi qu'il se retrouve par une fin d'après-midi pluvieuse dans un modeste studio de la rue de l'Hôpital, pas très loin du Louvre, chez un certain Vincenzo Perugia. C'est un Italien, comme son nom l'indique, et qui, d'ailleurs, le reçoit très poliment. Seulement, même si Monsieur Le Prieur est armé de bonne volonté, il manque et de pratique et de légitimité dans la perquisition. Il s'entretient donc avec Perugia, qui lui propose de s'asseoir sur le lit, c'est plus confortable, et qui jette un œil au débarras attenant à la pièce principale. Monsieur Le Prieur ne sait pas trop quoi faire. Il fait une rapide inspection et puis il ressort comme il était venu. Le conservateur au Louvre était en vérité assis sur le lit, je vous l'ai dit. Or, sous le lit, dans une valise grande ouverte, elle était là, silencieuse, toujours souriante. Ah, cette Joconde. Si seulement elle pouvait parler.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer.
Un extrait sur Europe 1 du célèbre indicatif de la série télé diffusée en 73, Arsène Lupin. Indicatif interprété par le non moins célèbre Jacques Dutronc.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 du Préludium de Fritz Kreisler.
On a un petit peu l'impression que c'est la presse qui mène la danse dans l'affaire du vol de la Joconde. Plusieurs grands journaux ont annoncé des récompenses très fortes, des primes extraordinaires à la personne, anonyme bien sûr, qui rapporterait la Joconde. Le 28 août, un aventurier du nom de Géry Pierret apporte de lui-même à la rédaction du Petit Journal une statuette qu'il avait dérobée dans la salle des Antiques du Louvre. On ajoute le scandale au scandale. Seulement, on ne peut pas arrêter Géry Pierret parce qu'il a pris la fuite, non sans s'accuser par provocation du vol de la Joconde. Finalement, dans cette enquête, le seul et unique individu que la police va vraiment arrêter mérite qu'on cite son nom, car c'est un nom très connu et même légendaire. Il s'agit de Guillaume Apollinaire. Vous avez bien entendu Guillaume Apollinaire, le grand poète. Comment est-ce que cet homme honnête, droit et même un peu maniaque, si l'on en croit ses amis, comment s'est-il retrouvé en prison accusé de complicité dans le vol de la Joconde? Eh bien, il se trouve que quelques mois plus tôt, il avait été victime de sa générosité et avait accepté d'héberger et de prendre comme secrétaire le fameux Géry Pierret. Or, il a accepté d'acheter à celui-ci quelques petits antiques de provenance douteuse. Oh, il n'est pas le seul, hein, vous savez, dans ce cas. Et dans le cabinet du juge d'instruction, le fameux Driou la grenouille, on peut dire qu'un certain nombre de pièces du même genre se sont depuis longtemps accumulées. Ce jour-là, le jour de son audition, Apollinaire va avoir la douleur de retrouver son ami Pablo Picasso, qui lui aussi est accusé de recel, mais pas de complicité. L'Espagnol est relâché le jour même, le Polonais fera 10 jours en cellule, après quoi, sous la pression de la bonne société, qui pense que décidément trop c'est trop, on va libérer Apollinaire. Alors bien sûr, on est tenté de sourire à cette anecdote, mais il faut savoir que cette anecdote-là a gravement affecté Apollinaire, qu'elle a pesé sur son destin. Dans cette affaire, il a perdu non seulement plusieurs de ses influents amis, mais aussi son amour, Marie Laurencin, qu'il ne retrouvera pas à sa sortie de prison. Et cette rupture entre Apollinaire et Marie Laurencin, on peut dire que c'est sans doute la conséquence la plus inattendue du vol de la Joconde. Pour le reste, vous connaissez la presse, un clou chasse l'autre, les semaines passent et les mois. La catastrophe du Titanic va bientôt prendre le relais du vol de la Joconde, dont on parle de moins en moins. Toujours aucun progrès significatif dans l'enquête. Il va falloir attendre décembre 1913 pour que soudain tout rebondisse. Un antiquaire de Florence, il s'appelle Alfredo Geri, rien à voir avec l'autre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet Alfredo Geri trouve dans son courrier une lettre en réponse à une annonce qu'il vient de faire passer dans la presse italienne en vue d'une exposition de chefs-d'œuvre de collection privée. La lettre est signée sous un faux nom par un Italien qui vit en France, or elle propose à l'antiquaire tout bonnement de lui vendre la Joconde. Bon, dans un premier temps, l'antiquaire jette la proposition à la corbeille, ça lui paraît être un canular, et puis, pris tout de même d'un doute, il va la montrer à un ami qui est conservateur à la Galerie des Offices, et c'est cet ami qui lui conseille de répondre, on ne sait jamais, à toutes fins utiles. C'est ainsi que par un beau matin de décembre 1913, Alfredo Geri voit entrer dans sa boutique de Florence un petit homme, modestement vêtu, et qui lui donne rendez-vous pour le lendemain matin à son petit hôtel. Il a, lui dit-il, le chef-d'œuvre et il va le lui montrer. Géry a pris la peine de se faire accompagner par son ami des offices et de prévenir la police qui, sur ordre du ministre italien des Beaux-Arts, a bouclé discrètement le quartier. Aucun doute possible, le tableau présenté est bien l'œuvre originale de Léonard de Vinci. Elle porte les marques du Louvre, etc. Il ne reste dès lors qu'à se saisir du tableau sous prétexte d'un examen plus approfondi et accueillir le receleur Vincenzo Perugia qui reconnaît le jour même être le voleur. Alors, pourquoi a-t-il commis un tel acte? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. Pourquoi le jury s'est-il montré à ce point indulgent à son égard, puisqu'il n'a fait après tout que 18 mois de prison? Ça aussi, nous allons le voir dans un instant. Quant à la Joconde elle-même, quant à notre fugitive, eh bien, à Noël 1913, elle va prendre le chemin de la maison, en première classe cette fois, nettement mieux qu'à l'aller. Le gouvernement italien remet solennellement au gouvernement français ce qui lui appartient de droit, et après une exposition triomphale à Florence, Mona Lisa fait un détour par Rome, où le roi d'Italie lui fait l'hommage d'une visite. Puis elle va prendre, sous une escorte digne d'un chef d'État, le train pour Paris, où elle arrive le 4 janvier. Les Parisiens lui feront un accueil délirant lors de l'exposition organisée à l'École des Beaux-Arts au profit d'œuvres de charité italiennes. Et puis, après tout ça, eh bien, Mona Lisa rentrera dans son Louvre, que voulez-vous? Je vous rassure, depuis, elle n'en est sortie qu'une fois, et encore, c'était pour une raison tout à fait officielle. Alors récemment, en 1996, Margaret McElwey avait repris l'enquête pour une chaîne de télévision. Elle avait avancé la thèse selon laquelle Perugia n'avait pas agi seul mais sur commande pour le compte du faussaire argentin Eduardo de Valfierno. J'ai eu l'occasion déjà à ce micro de faire une émission sur cette thèse et de vous montrer que ça permettait, en tout cas, si on n'est pas certain que la thèse soit bonne, ça permet d'apporter un éclairage tout à fait intéressant sur l'affaire. Et plus récemment encore, le critique d'art Jérôme Coignard du magazine Connaissance des Arts a exhumé les confessions que Perugia avait faites dans le quotidien Le Journal. C'était au mois de juillet 1915. Jérôme Coignard est avec nous, il est mon invité dans ce studio. Et vous allez voir que les éléments qu'il apporte éclairent d'un jour tout à fait nouveau une affaire qu'on avait peut-être tendance jusqu'ici à avoir classée un peu vite.
Et aujourd'hui, de 13h à 14h sur Europe 1, Franck vous relate l'histoire du vol de la Joconde. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le site europe1.fr, Franck.
Et on nous pose un certain nombre de questions, mais avant de venir dans ce détail, j'aimerais, avec Jérôme Coignard, revenir sur l'ensemble de cette affaire. Bonjour Jérôme Coignard.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, il faut quand même, d'un mot, dire à quel point ça a été un choc. Pas seulement pour les Parisiens ou les Français, mais pour la planète entière, cette histoire de vol il y a 100 ans.
Oui, c'est une stupéfaction mondiale. La presse, évidemment, ne parle plus que de la Joconde pendant des semaines et des semaines. On n'imaginait pas que ce fût possible, tant la notoriété du tableau était déjà considérable.
Est-ce que cette notoriété avait déjà le caractère universel qu'elle a depuis ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Joconde est vraiment devenue le symbole même de l'art. C'était peut-être pas tout à fait aussi évident en 1911.
Non, je dirais qu'en 1911, le tableau est très connu, mais dans un milieu cultivé une élite qui fréquente les musées, qui...
Pas encore cette grande culture de masse, etc. Ça n'existe
pas. Non, c'est dès le lendemain du vol, le surlendemain, la photo de la Joconde va se retrouver à la une de beaucoup de quotidiens illustrés. C'est à ce moment-là que des populations entières vont découvrir le tableau. En réalité, des gens qui n'ont jamais été voir la Joconde au Louvre auparavant.
Alors c'est un événement qui, comme à chaque fois que la presse s'en mêle à ce degré-là, devient très vite un événement politique et en l'occurrence diplomatique. Car ce que je n'ai pas dit, là je n'avais pas le temps dans le récit, et puis je voulais vous laisser le plaisir de le faire, c'est qu'on est dans une époque extrêmement tendue. Tension diplomatique avec l'Allemagne, alors là c'est évident puisqu'on est même au bord de la guerre en 1911, mais tension diplomatique avec l'Italie aussi.
Oui, alors il faut dire que l'Allemagne, dans cet été 1911, a envoyé deux navires de guerre mouillés au large des côtes marocaines, alors que la France étend son empire colonial et justement est en train de lorgner sur le Maroc qui va devenir un protectorat.
Oui.
Donc il y a une mesure d'intimidation de l'Allemagne qui entend avoir sa contrepartie de l'empire français au Maroc, en Afrique subsaharienne. Et donc cette intimidation peut très mal tourner. Il y a des négociations secrètes mais intensives entre le président du Conseil français et le gouvernement de l'empereur d'Allemagne au moment où le vol de la Joconde survient.
Et puis alors avec l'Italie, c'est extrêmement tendu aussi. Et évidemment, le vol de la Joconde par un Italien, au départ, ça paraît presque un élément de... une cause de guerre.
Alors finalement, ce sera plutôt une heureuse surprise que cette nationalité italienne du voleur. Mais là, on est déjà en 1913. La grande tension entre la France et l'Italie,
c'est
1912, avec la guerre de Tripolitaine et des navires français qui sont saisis par la marine italienne. Ils sont accusés de transporter des troupes turques, qui sont les ennemis de l'Italie dans cette guerre de Tripolitaine. Finalement, la restitution par la suite...
Oui, parce qu'on s'est arrangé pour que cette restitution soit un facteur de concorde entre la France et l'Italie.
Voilà. Finalement, moi j'ai cru percevoir comme un soulagement du côté français comme du côté italien de pouvoir, à l'occasion de la restitution de la Joconde, assurer l'autre pays de son amitié à une époque, il ne faut pas l'oublier, où l'Italie est l'alliée de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc c'est vraiment... il va y avoir par la suite un basculement d'alliance et on pourrait dire que la Joconde figure parmi les prémices de ce changement d'alliance. Tout d'un coup, l'Italie se rapproche de la France autour de la Joconde.
Alors, qui est ce voleur, Perugia ? C'est un ouvrier, hein, c'est quelqu'un
c'est
de très...
C'est un ouvrier modeste, voilà, qui est issu d'une famille tout à fait honorable, d'un petit village de Lombardie, dans la région du lac de Caume. Comme beaucoup de ses compatriotes, il s'est expatrié pour trouver du travail en France. Donc il est peintre en bâtiment, vitrier.
Et en tant que vitrier, c'est lui qui a contribué à l'installation de la fameuse vitrine sur la Joconde.
Voilà, alors il a eu le grand honneur de poser la vitre de la Joconde et d'autres tableaux au musée du Louvre dans les années... Enfin, précédant le vol, 1909-1910, c'est vous dire qu'il est parfaitement introduit au Louvre et qu'il sait très bien comment sont fixés les tableaux.
Quelle pouvait être sa motivation ? Que va-t-il dire pendant le procès ?
Alors, pendant le procès, et ça sans doute encouragé par ses avocats qui sont très habiles, il se réfugie derrière l'argument patriotique. Lui-même dit avoir été humilié en tant qu'Italien, immigré, travaillant en France, par ses camarades qui lui mettaient du poivre dans son vin, enfin, etc., puis qu'il traitait de macaroni.
C'est la revanche du petit.
Alors, il y a une sorte de revanche, une petite vengeance de l'Italien brimé en France. Et en même temps, il dit, mais j'avais vu dans un livre que Napoléon avait volé ce tableau à l'Italie, donc il veut dire Bonaparte pendant la campagne d'Italie, bien sûr, et je voulais rendre ce chef-d'œuvre à ma patrie. Et alors ça fait évidemment, c'est un succès fou au procès de Florence en 1914, on le trouvait émouvant, ce voleur.
Ce qui veut dire que ce bonhomme a commis une erreur historique qui a eu des conséquences dramatiques. Parce qu'en fait, évidemment, rappelons-le une bonne fois, ce tableau n'a pas du tout été récupéré par Bonaparte au moment de la campagne d'Italie. Il a bien été rapporté par Léonard lui-même dans ses bagages au moment de son installation au Clos Lucé et acheté, et on a vu d'ailleurs contre une très forte somme, par le roi François Ier. Il fait donc tout à fait officiellement partie des collections de la couronne de France depuis le XVIe siècle.
Et en toute légitimité, effectivement, très cher Pédia à l'époque, comme vous le soulignez justement. Donc il n'est pas question de rapines de guerre.
Mais alors ce nationalisme, paradoxalement, est bien vu. Je pense qu'aujourd'hui ce serait un facteur aggravant dans un procès. À l'époque, c'est plutôt une circonstance atténuante. On a l'impression que le nationalisme, finalement, ça pourrait justifier presque un crime passionnel.
Oui, parce qu'il faut dire que Perugia, par chance pour lui, est jugé dans son propre pays. Alors, où évidemment, ce nationalisme un petit peu naïf fait très bonne impression. S'il avait été jugé en France, évidemment, on peut supposer que...
Il aurait fait, vous dites, entre 10 et 15 ans de prison.
Oui, au moins, puisque le voleur des statuettes du Louvre, Géry Pierret, que vous mentionniez précédemment, a été condamné par contumace à 10 ans de réclusion. Pour des statuettes qui étaient tout à fait obscures, alors vous pensez que pour la Joconde, la condamnation aurait pu être beaucoup plus sévère encore.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette thèse de Mme McElway là, sur l'histoire du recel et du faussaire? Elle prétend donc que le calcul du faussaire était tout simple. Il aurait fait exécuter au préalable un certain nombre de copies très réussies de la Joconde et puis il aurait fait dérober l'original pour écouler ces différentes copies à des collectionneurs un peu fétichistes en faisant croire à chacun, évidemment, qu'il possédait l'original. Quant à l'original lui-même, il n'avait plus grand-chose à en faire et il l'aurait remis en quelque sorte à Perugia, qui de guerre lasse n'aurait vu comme issue possible que de le vendre à cet antiquaire florentin qui finalement va le retrouver.
C'est une histoire qui est bien sûr très séduisante, qui à mon avis n'a aucun fondement historique. Simplement, elle traduit un problème auquel j'ai été confronté moi-même, c'est que pendant 2 ans, Perugia ne fait rien de ce tableau. Il le vole en août 1911 et on retrouve le tableau à Florence en 1913. Entre-temps, il ne se passe rien. Et évidemment, on a eu envie de combler ce manque en forgeant cette belle histoire qui, je crois, enfin à ma connaissance, c'est l'invention d'un journaliste dans les années 30.
Mais en fait, grâce à vous, Jérôme Coignard, et grâce à votre ouvrage, Une femme disparaît, sous-titré Le vol de la Joconde au Louvre en 1911, c'est aux éditions Le Passage. Grâce à votre travail, on n'a plus besoin de combler des vides puisque vous apportez une solution qui, sans être définitivement prouvée, est quand même extrêmement convaincante. On y vient dans un instant.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut gironde. Bah quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Venez voir le sourire, la Joconde, c'est le plus beau du monde. La Joconde, c'est moi que je suis la Joconde. Mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Mais je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde.
L'immense Barbara sur Europe 1 avec Ménuet pour la Joconde. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1 et on en parle avec votre invité qui est critique d'art et journaliste à la revue Connaissance des Arts, Jérôme Coignard, Franck.
Jérôme Coignard, auteur donc d'Une femme disparaît aux éditions Le Passage. C'est un ouvrage qui est très bien fait parce que vous avez des très courts chapitres qui sont présentés exactement d'ailleurs comme des chroniques de presse et on a l'impression comme ça de courir littéralement après la Joconde, parfois de la devancer un peu même. Un certain nombre de nos auditeurs m'envoient donc pas mal de messages. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions qui se sont posées sur le tableau lui-même. Mmh. Ça vaudrait d'ailleurs, pourquoi pas, la peine de faire une émission sur la Joconde en tant que telle.
C'est noté.
Mais pour ce qui est du vol lui-même, plusieurs auditeurs disent, mais après tout, elle était italienne, elle revient aux Italiens, etc. Alors, c'est toujours ce grand débat sur la nationalité des objets d'art, si tant est que ce débat soit justifié, surtout à notre époque. En l'occurrence, je redis bien, une fois pour toutes, que la Joconde a été apportée en France par Léonard lui-même et qu'elle a été vendue au roi de France, François Ier, par Léonard. Donc la question est entendue, si je puis dire. Elle n'avait aucune raison de revenir spécifiquement à l'Italie. Et alors, si on devait rendre la Joconde à l'Italie, il faudrait rendre, n'est-ce pas, Jérôme Coignard, un très grand nombre d'autres œuvres à bien
des
pays.
Mais ça n'a pas de sens. Et puis, on n'est pas dans le cas du Parthénon, là, où les marbres du Parthénon ont été acquis bon, d'une façon relativement peu légale à l'époque par Lord Elgin. La Joconde achetée, ben, comme toute œuvre d'art, c'est le commerce en toute légitimité. Non, il n'y a pas à revenir là-dessus.
Alors, avant d'écouter Barbara, vous nous disiez que tout le mystère venait de cette longue période pendant laquelle on n'entend plus parler du tableau. Il est donc visiblement chez Vincenzo Perugia. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en occupe pas? Il aurait oublié le tableau? Il a été présenté pendant son procès un peu comme un faible d'esprit, il faut bien le dire.
Voilà, alors c'est un garçon qui n'est pas inintelligent, mais qui semble effectivement être un simple d'esprit. C'est comme ça que le décrit l'expert psychiatre qui a été nommé dans le cadre de l'instruction du procès de Florence. Mais évidemment, pourquoi avoir décroché ce tableau si c'est pour le mettre dans un placard ou sur son lit et le garder ainsi pendant 2 ans? Alors, on peut évidemment supposer que, surpris de l'ampleur du scandale dès le surlendemain du vol, Perugia prend peur et donc préfère dans un premier temps rester tranquille. Mais,
qu'il n'y ait une autre explication, et c'est un peu l'explication que lui-même va donner à la presse française, hein, dans 3 interviews qu'il donne au journal à la fin du mois de juillet 1915. Et ces confessions qui ont été tout à fait oubliées, négligées, vous les prenez-vous relativement au sérieux? Que nous dit Perugia sur les motivations profondes de son acte et surtout sur les circonstances qui l'ont entouré?
Voilà, alors en 1915, donc il a été jugé, il a purgé sa peine, enfin il est tout à fait libre. Et donc il parle à un journaliste français, il dit voilà, en réalité, j'avais été approché, pendant que je travaillais au Louvre, à la mise sous verre de certains des chefs-d'œuvre de la collection italienne, par un Allemand dont j'ignore le nom et qui m'avait dit mais apprenant que j'étais italien, mais moi aussi je suis étranger, voilà, je suis allemand, etc. Ne trouvez-vous pas, cher ami, qu'il y aurait beaucoup de gloire à rendre quelques-uns de ces chefs-d'œuvre que les Français ont volé à l'Italie, donc allusion à la campagne de
Bonaparte. Donc il aurait
été
manipulé, en quelque sorte.
Alors voilà, c'est ce qu'il raconte. C'est véritablement une manipulation, même si le mot n'est pas employé à l'époque. Et cet Allemand qui revient le voir assez fréquemment et discute avec lui pendant que Perugia travaille à ses encadrements, lui propose même de l'argent. Il s'agit de belles pièces d'or de 20 francs. C'est une somme considérable à l'époque pour un ouvrier qui gagne 90 centimes, 1 franc par jour au maximum. Cet argent va permettre à Perugia de prendre des congés, donc de se mettre en chômage et d'étudier la possibilité du vol. Et notamment en allant voir le lundi ses collègues vitriers qui travaillent dans d'autres salles du Louvre pour se familiariser avec tous les accès et puis avec le personnel du musée probablement.
Mais comment tous les enquêteurs, et pas des moindres, qui ont planché sur la question, n'avaient-ils pas découvert cette connexion, si je puis dire? C'est quand même un peu extraordinaire.
Alors, il n'est pas interdit de parler pour un visiteur qui est admis au musée, de parler ou de dire
trois mots
à un ouvrier qui travaille sur un chantier. Par ailleurs, Perugia dit que les rencontres s'étaient poursuivies dans un café près de la Belle Jardinière, un grand magasin donc proche de la Seine, et qu'à de nombreuses reprises, voilà, il y avait eu des conférences avec cet Allemand sur la possibilité du vol. Rien de répréhensible à parler à cet ouvrier pendant qu'il travaille. Mais...
Alors, admettons la véracité de ces confessions et donc l'existence de cet Allemand, qui était-il et pour qui travaillait-il?
Alors, en 1915, donc en pleine guerre, l'hypothèse du journaliste qui interroge Perugia est que cet Allemand, dont Perugia donc ignorait le
nom... On est quand même dans un contexte de guerre totale,
oui,
on est en
1915, voilà, oui. C'est épouvantable. Donc l'hypothèse de Georges Pratt, ce journaliste, est que l'Allemand est un espion, un de ces innombrables espions que l'Allemagne a envoyé dans l'Europe entière pour préparer la guerre par des entreprises de déstabilisation. Il s'agit aussi de prendre le contrôle de certaines sociétés en envoyant des capitaux. Et il se trouve que le journal, donc le quotidien dans lequel est publiée cette confession, va faire lui-même l'objet d'une sombre manœuvre avec des capitaux allemands pour essayer d'influencer la presse française. Bon, donc ce mystérieux Allemand serait un espion. Moi, mon hypothèse est un peu différente. Je pense qu'il est effectivement plausible que Perugia ait été manipulé parce que on voit pas comment ce petit bonhomme tout seul peut s'attaquer à parties aussi impressionnantes, hein, parce que ça suppose tout de même une organisation de faire quelque chose d'un tableau célèbre. Ça suppose une bande.
Évidemment,
ça suppose des connexions avec le milieu de l'art, avec des collectionneurs, avec.
Et là, ça finit d'une façon tellement inattendue, banale, j'ai envie de dire, qu'on voit bien qu'il n'y avait rien de tout ça derrière, précisément.
Oui, alors, justement, alors, il se trouve que la police allemande, la police de Berlin, signale à la sûreté française, dès quelques semaines après le vol du tableau, qu'un certain Otto Rosenberg, qui est un bandit qui est recherché par les Allemands, est peut-être impliqué dans l'affaire du vol de la Joconde. Cet homme est bien connu de la police allemande. Il est bien mis, il parle plusieurs langues, c'est un homme très civilisé, mais en même temps c'est un escroc redoutable, proxénète, tricheur au jeu, et donc, il est signalé par les Allemands à la police française. Évidemment, moi je trouve que, plutôt que l'hypothèse de l'espion, bon, assez vague, là voilà un document qui nous permet de
mettre un visage.
Un visage, parce que malheureusement je n'avais pas la tête de ce Rosenberg, mais en tout cas un nom. Et d'autant plus que là, j'ai trouvé des archives aux Archives nationales. Il y a toute une enquête de la police française en Belgique sur les traces d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans le vol d'œuvres d'art de musées, bande à laquelle Rosenberg appartient. Alors vous me direz, la police à l'époque en France suit plus de 2000 pistes. Alors ça peut être une piste suivie en vain parmi beaucoup d'autres. Mais enfin, celle-ci semble avoir un début de réalisation concrète qui me semble troublant.
Pour avoir plus de détails sur cette piste et puis aussi sur tous les rebondissements d'une enquête sur laquelle j'ai été obligé moi de passer très vite, je vous renvoie à l'ouvrage de Jérôme Coignard, Une femme disparaît, le vol de la Joconde au Louvre en 1911, et nous pouvons nous préciser aujourd'hui que c'était bien le 21, enfin qu'on l'a su le 22 août, oui. 1911, il y a donc exactement 100 ans. Le livre de Jérôme Coignard est édité aux éditions Le Passage. Merci beaucoup. Bonjour Roland Pérez.
Et bonjour Franck Ferrand. On va s'occuper vous de Franck, puisqu'on parle aujourd'hui avec les experts européens de beauté des hommes. On ouvre un véritable salon de beauté cet après-midi de 14h à 15h30, réservé aux hommes, mais pas seulement qu'aux hommes qui prennent soin d'eux. Les femmes aussi vont pouvoir témoigner, rester avec nous. On va avoir des témoignages tout à fait surprenants.
Merci Roland, à demain.